Radio Primitive.
Faites votre radio vous-même.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va, avant de commencer une nouvelle émission, on va revenir sur l'émission de la semaine dernière qui était consacrée à des salariés de PEI. PEI, c'est une entreprise de nettoyage qui intervient chez Renault dans la région parisienne, à Guillaume-Court exactement, au technocentre de Renault. Alors, la grève est terminée. Ils ont gagné, ils estiment qu'ils ont gagné, c'est important, hein. C'est pas à nous à juger qu'ils ont gagné, eux estiment qu'ils ont gagné. Ils ont fait quand même 5 semaines de grève. Bon, il y a eu, alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Il y a la fin du chômage partiel, c'est important pour eux. Il y a quand même 30 personnes qui vont partir, par mutation ou en rupture conventionnelle collective. Ça sera des volontaires, avec des indemnités supralégales d'au moins 20% en plus de la normale. Et ensuite, il y aura une compensation d'une partie des jours de grève en congés et en un contingent d'heures à devoir. Voilà, alors donc, pour eux, ils ont gagné. C'est quand même une sacrée, ça a été quand même une sacrée bagarre, puisqu'ils ont fait des tas d'actions. Bon, je ne vais pas y revenir. Vous pouvez donc, si vous intéresse, aller voir sur le net pour savoir un petit peu ce qu'il en est.
Et réécouter l'émission de la semaine dernière, éventuellement.
Éventuellement.
Alors, cette semaine, on fait une action de copinage éhonté, puisque on va s'entretenir avec des camarades et du Nord, hein, du Pas-de-Calais. Ça y est, je commence déjà les confusions, c'est pas la même chose. Des camarades qui animent un journal qui s'appelle La Mouette Enragée, dont on a souvent parlé ici. On a même eu certains de nos camarades au téléphone, et on a trouvé le prétexte de leur troisième décennie, l'achèvement de la troisième décennie d'existence de ce journal et de ce collectif, pour revenir un peu sur leur action, leur histoire, et puis essayer de comprendre, éventuellement d'illustrer qu'est-ce que ça veut dire, et En quoi ça peut consister, d'être un groupe anarchiste communiste dans une ville. Alors c'est aussi pour nous l'occasion d'avoir un espèce de regard auto-centré, puisque ça va nous servir aussi de prétexte et de miroir. Alors pour ça, on a quelques camarades de Boulogne qui normalement doivent être de l'autre côté du téléphone. Est-ce que vous nous entendez correctement ?
Oui, correctement, bonsoir.
Salut, donc normalement vous êtes trois, c'est ça ?
Nous ne sommes que deux ce soir.
Vous nous sommes que, voilà, c'est très bien, bon ben c'est pas grave, ça ira plus vite. Alors voilà, déjà première erreur que j'ai fait lors de ma présentation, j'ai parlé du Nord, et non c'est pas le Nord, c'est Boulogne-sur-Mer, c'est le Boulonnais, et évidemment ça a une importance parce que c'est pas le même type d'histoire et c'est pas le même type de population. Si vous pouviez décrire votre littoral, votre région, votre ville, qu'est-ce que vous pourriez me raconter sur la composition sociale justement de votre ville et on va dire de votre agglomération, parce que en fait Boulogne, Calais, presque même Dunkerque et on s'y redescend, tout ça c'est assez collé et c'est assez homogène quoi. Est-ce que vous pourriez rapidos me décrire un peu votre ville et votre région?
Boulogne, Calais ou Dunkerque sont des villes avec une forte composition ouvrière et qui a un fort passé industriel, bon, ce qui n'est plus tout à fait le cas encore aujourd'hui, mais qui a une réalité avec effectivement des industries implantées historiquement depuis un siècle ou un siècle et demi. Mais à la différence effectivement de certaines régions du Nord, moins de mono-industrie, plutôt de la pluri-industrie.
Oui, c'est ça. Il y a, pour ceux qui se rappellent encore dans les années 80, Usinor Sastilor, qui était un immense employeur, hein, et aujourd'hui ArcelorMittal, bon, il y a le port, il y a Gravelines, il y a ça. Il y a la pêche également ?
Oui, alors la pêche, c'est la marque de fabrique, on va dire. C'est ce qui se vend à Boulogne, puisque c'est toujours le premier port de pêche français en tonnage. On va pas s'étendre là-dessus, hein. On écrit un bouquin qui s'appelle Fortune de mer, où on explique entre autres un peu cette histoire-là. Maintenant, il y a le quartier de Marais Capécure qui est le premier centre de transformation des produits de la mer en Europe. C'est-à-dire que c'est une gigantesque à l'échelle de Boulogne, hein. Il reste plus que 45 000 habitants. Davantage si on prend un peu. Pas loin de 200 000 si on prend toutes les petites villes à côté et où il y a des gens qui viennent travailler dans le poisson ou dans tout ce qui tourne autour de l'halieutique. Et une quantité d'usines comme ça qui transforment, qui font des plats cuisinés, qui font des surgelés, qui font des choses comme ça. Sinon, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, il y a eu un pôle industriel à Boulogne-sur-Mer autour de la sidérurgie, du ferro-manganèse, qui a été démantelé en trois coups de cuillère à peau, c'est le cas de le dire, puisqu'il y avait trois usines qui ont disparu les unes après les autres au cours des années 70-80, je crois que la dernière a fermé dans les années 90. Quoi. Voilà un peu pour le paysage, sachant que Boulogne, Calais, Dunkerque, c'est quand même trois entités relativement différentes, parce que effectivement les populations ne sont pas issues forcément des mêmes métiers et n'ont pas les mêmes forcément les mêmes traditions dans le cadre de du milieu ouvrier quoi.
Alors si je peux préciser et te poser une question, hein, le mariage, hein, c'est la transformation du poisson, donc c'est évidemment des boulots physiques qui se déroulent dans le froid avec des horaires décalés. Est-ce qu'on pourrait le comparer à des abattoirs de l'agroalimentaire comme ça?
Oui, c'est un peu comparable à ce qu'on connaît un peu en Bretagne, par exemple. Hein, c'est de l'agro-industrie. Ouais. Beaucoup de travail de manutention, beaucoup de travail de filetage, beaucoup de travail aussi de transport. Et en tout, en gros, ça fait à peu près 5000 postes en permanence au quotidien.
Oui, c'est ça, parce qu'en plus, c'est une industrie où il y a un gros turnover. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont, qui viennent. Il y a évidemment beaucoup d'accidents de travail, des gens qu'on en marre, de l'intérim, parce que ben, la filière poisson, elle vient, quoi. Hein. Donc, vraiment aussi un rapport à l'emploi et au travail qui est spécifique, si on peut imaginer qu'il n'y en a pas des rapports au travail et à l'emploi qui sont spécifiques. Je pense que c'est important de le préciser aussi au niveau de la population. Hein. On a souvent... donc là, on est sur le Pas-de-Calais, donc c'est pas la mine, donc c'est pas les mêmes cultures ouvrières, c'est pas les mêmes cultures politiques, mais il faut aussi préciser que il y a aussi des bourges hein, dans le Nord. On a souvent tendance à penser que c'est homogène. Par exemple, Dunkerque est une ville où il y a une population très riche, issue des familles d'armateurs et des grands armateurs au cours des siècles passés. Quoi, il y a vraiment des traditions familiales et des traditions patronales qui sont là depuis très longtemps.
Ouais, et parallèlement, et pour rebondir un peu sur ce que disait, il y a une précision qu'il faut donner quand même, parce que quand on parle de Bouguenais, le premier port de pêche, quand j'ai dit effectivement en tonnage, curieusement, il y a un métier qui s'appelle docker poissonnier qui n'existe plus chez nous. C'est un métier où les gens se pointaient le soir à l'embauche pour aller décharger le pigeon, et ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus parce que ben, le poisson n'est plus forcément débarqué ici. Quoi. Deuxième chose, effectivement, puisque tu parles effectivement des dichotomies sociales, il y a une petite ville, notamment à côté de Boulogne, qui s'appelle Vimereux, comme il y a le Touquet-Paris-Plage, qui sont des lieux de villégiature. Alors pour Paris-Plage, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, et pour Vimereux, ben, c'était des gens qui étaient les patrons de l'industrie textile ou autre, qui avaient leur villa ici et qui, encore aujourd'hui, on voit des maisons avec vue sur la mer là-bas, avec des balcons et avec tout le tralala, qui sont habités un ou deux mois par an, quoi, pour les vacances. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est toujours très frappant, notamment dans ces villes, de voir la ségrégation spatiale et l'implication, on va dire, comment dire ça, la traduction sociale à l'intérieur de l'architecture et à l'intérieur de l'espace. Quoi, c'est vraiment une lecture très 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 facile. de voir, mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur Vimereux parce que ça commence un petit peu à râler, il y a des petits problèmes en ce moment là-haut. Alors cette culture ouvrière et sociale, qu'est-ce que ça donne en termes de traduction politique? Est-ce que ce prolétariat, est-ce que ces travailleurs, ils ont eu des formes d'organisation particulières, dans quelle traduction politique, dans quel courant politique ça a pu se donner en termes des grands ensembles? On se souvient que Calais a été très très longtemps communiste, hein, avec un maire assez célèbre, le dernier, qui s'appelait Jacques Hénin, dont on a eu l'occasion de parler ici lorsqu'on parlait de Calais. Enfin, comment ça se traduisait d'un point de vue politique?
Ah, si tu prends un petit peu à l'échelle historique, tu remontes à peu près 150 ans en arrière, tu as une évolution, c'est-à-dire que comme c'est quand même un port extrêmement tourné vers la pêche, le catholicisme a une influence déterminante et très,
ouais, complètement,
très hein, sur le ouais. Voilà, donc toute cette partie là du monde du travail a longtemps voté de façon assez conservatrice, ce qui n'a pas empêché avec évidemment le développement de l'industrie en parallèle agroalimentaire entre autres, mais aussi bon les industries mécaniques etc. Et tout l'industrialisation progressive de la fin du 19e jusqu'aux années 40, bah, de voir se développer tout un mouvement ouvrier, une des premières bourses du travail en France, et un mouvement ouvrier qui s'est organisé un petit peu comme partout, c'est-à-dire un courant social-démocrate, un petit courant syndicaliste révolutionnaire, et puis à partir des années 20, un parti communiste qui a commencé à bien s'implanter, quoi. Et à partir de 45, eh bien, non-stop jusqu'à quasiment aujourd'hui, à part une exception, un pouvoir municipal socialo-communiste.
D'accord. Et comment tu expliques, notamment par exemple sur Boulogne et sur Dunkerque, plutôt une domination socialiste, à savoir PS et CFIO, et sur Calais une domination du PCF. Hein.
Ah, c'est-à-dire que dans moi, bon, je bossais à Calais. Hein,
c'est pas grave, Fred.
Non, parce que je veux dire, j'ai connu justement la transition, la transition Jacques Yellin, puisque c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, entre guillemets, par intérim, parce que le précédent, qui était là depuis la Libération, décliné du point de vue de sa santé et il a jeté l'éponge. Et donc, la première arrivée de Jacques Yellin à Calais aux commandes, c'était par défection du maire dont il était adjoint au sport. Bon. Ici, à Boulogne, bon, on a un peu le même schéma, quoi, où on a eu des gens comme Engel, etc., qui étaient issus, pareil, de l'après 45, de la Libération, et qui, en gros, jouaient sur leur nom. Mmh. Et je crois que c'est une espèce de tradition dans le coin, quoi. C'est que c'est les noms qui, à une exception près, comme le disait Xavier, quand Muselier a fait une parenthèse dans le continuum, bon, maintenant on est encore un peu sur le même schéma où, comme dans les villes d'importance moyenne comme la nôtre, ça se joue beaucoup sur la personnalité et sur l'affiliation politique, y compris dans son évolution, des gens qui sont aux commandes.
Ouais, petite précision tout de même peut-être, je pense aussi quand même au niveau de la composition sociale de la classe ouvrière, Calais a longtemps été une ville pratiquement de mono-industrie, hein, c'est-à-dire mm-hmm. que tu avais les filatures et le textile qui a employé mais des milliers et des milliers de personnes, donc un prolétariat, la dentelle, etc., dentelle. Très concentré, ah. Voilà. Boulogne, ça a plutôt été beaucoup déjà à l'époque, on n'appelait pas ça, mais des petites des fabriques, quoi. Ça a toujours été un peu le monde de la fabrique, quoi. Et ça reste un peu, hein, même sur Capécure, c'est des PME, quoi. On appelle ça des PME maintenant, mais beaucoup plus. Moins des gros centres industriels concentrés, quoi. Et donc évidemment, une sociologie et une traduction politique un peu différente parfois.
Alors cet encadrement, et on terminera là-dessus peut-être pour le paysage, mais ça permet de donner aussi des éléments aux auditeurs pour comprendre ensuite vos analyses politiques et vos interventions. Alors ce paysage social-démocrate et communiste, en tous les cas partidaire, il permet, avec la domination sur les mairies, sur le pouvoir municipal, il permet d'un côté une prise en charge de la population, un encadrement avec évidemment un clientélisme très important, c'est-à-dire on utilise les moyens de la municipalité pour faire de l'emploi, etc., gérer cette gestion d'emploi. Et puis de l'autre côté, comme ça fonctionne bien en termes de prise en charge de la population, il y a des fédérations du Parti Socialiste ou des fédérations politiques qui sont importantes et qui permettent justement aux baronnies locales de s'imposer au niveau national, à la fois au niveau du parti, mais aussi dans l'État lorsque celui-ci parvient aux manettes du pouvoir. Et c'est à l'occasion qu'on voit de nombreux représentants de ces municipalités du Nord et de Boulogne participer à des postes ministériels ou dans les cabinets ou au gouvernement.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça, c'est ce lien de cause à effet qui permet de comprendre justement comment on gère, entre guillemets, une clientèle politique. Le problème étant, c'est que quand ça se casse la gueule, forcément, ça s'effondre, quoi. Pour le coup, là, il y a vraiment un truc qui s'effondre.
J'ai une question à poser par rapport à l'immigration. Contrairement au Nord, je crois que dans votre coin, il y a eu très peu d'immigration, je crois, hein.
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une immigration qui était une immigration qui était organisée par l'État, c'est-à-dire essentiellement pour alimenter la sidérurgie, quand il y avait encore la sidérurgie, donc en lien avec l'Algérie, le Maghreb. Il y a eu une population qui a été, mise sous contrôle, qui venait du Portugal, qui était plutôt concentrée dans des quartiers sous contrôle de la police même portugaise à l'époque. Beaucoup moins importante numériquement, effectivement, que dans le Nord.
Ouais, ouais, d'accord.
Alors, après cette longue introduction qui nous aura dépeint le contexte socio-politique des lieux de votre intervention, je vous propose de faire une première pause musicale, et comme ça, ensuite, on aura tout le reste de l'émission pour parler de votre journal, de votre groupe et de ses activités. Vous quittez pas, on se retrouve dans 4 minutes et demie, à peu près.
Un spécial dédicace au sac 96 95C. Et comme dit ma pote qui, on n'est pas drôle, on mange à la casserole.
Je dès que je me sens gay comme un parfum, j'arre tombe dans le boulonnais et je confie ça aux copains. Espèce de cuberneux, moutin, net tête à gonfle, et faites ma regardin, arrête d'être malade. Dalmistro à caca, s'y traînent tous les plus farces. Si t'es fait pour chichi, on s'occupe à Vanty. Ben accroché au bar, on se raconte des histoires. On se traite, on se malmène, car si tu la ramènes. Méfie-te les 62.
Si tu l'as,
ils tireront bec de bout, tête de don et paye ta coup. Samedi aux Amouris, Ariane, eux qui est chaudri. Quand Gogo s'est pointé, graillant comme un anglais. Ils disent au bar et vous, Mémi, j'ai rendez-vous. Avec un joli drôle, café par les catoules. Être bien occupé, à boire et à rigoler. Quand une figure, une moule à gaufre est venue faire saint philosophe, on l'a laissé baver là. Il était bon des graillailles, à te faire des prêches prêches, et nous prennent pour les gagueurs.
Si tu l'as,
méfie-te les 62.
Si tu l'as,
ils diront bec de bout, tête de don et paye ta goût. Les bagaveux, que de débarquer n'importe où, ça c'est pas un problème pour nous. On est corps pas moqueux, les bagaveux, que de débarquer n'importe où, ça c'est pas un problème pour nous. On est corps pas moqueux, les bagaveux, que de débarquer n'importe où, ça c'est pas un problème pour nous. On est corps pas moqueux, les bagaveux, que de débarquer n'importe où, ça c'est pas un problème pour nous. Comment qui va? Alors prends-nous pas le tête, enfonceur et porte ouverte. Alors prends-nous pas le tête, enfonceur et porte ouverte.
Si tu l'as,
Méfie-te les 62.
Si tu l'as,
ils tirent bec et bout, tête de don et paye ta coup.
Si tu l'as,
Méfie-te les 62. Et tout, tête de don et paye ta coup.
Si tu l'as,
Méfie-te les 62.
Si tu l'as,
ils diront bec et tout, tête de don et paye ta coup.
Si tu l'as,
Méfie-te les 62.
Si tu l'as,
ils diront bec et tout, tête de don et paye ta coup.
Si tu l'as,
Méfie-te les 62.
Et ben voilà, c'était Marcel et son orchestre. On s'est pas foulé pour la musique, hein, évidemment. alors, on est toujours avec les camarades de la mouette enragée, j'espère. Oui.
Oui.
Oui. Non, pas, sont pas, se sont pas évadés. Voilà. Après avoir décrit le cadre de vos interventions, on va venir un petit peu plus au concret, puisque cette année vous fêtez la 30e année d'existence de votre publication.
Oui, ça... on sait que tu as eu vent de ça, donc.
Oui, bah, on est parfaitement bien renseignés. Les fiches sont à jour, camarade.
Il me semble.
et donc, on voulait en profiter déjà pour vous rendre hommage, parce que 30 ans des distances, c'est pas rien quand même sur la continuité. Puis vous donner la parole pour vous expliciter un petit peu ce que vous faisiez, ce que vous aviez fait et ce que vous alliez faire. Voilà, peut-être nous expliciter pourquoi et comment ce journal il est né, et puis un petit peu aussi peut-être vous présenter, puisque vous êtes la particularité d'être, on va dire, un collectif politique, un groupe politique qui existe aussi, pas seulement, mais aussi à travers ce journal. Alors au travail, hein, qui commence, hein?
Bon, bah écoute, hein, je vais décoller.
Bah oui.
Ah, ça y est.
N'aie pas peur, hein.
N'aie pas peur, non,
c'est pas
ça,
grave. Vas-y, je t'en prie.
Technicien qui s'endort de temps en temps.
Alors, oui, donc, le journal.
Vas-y, ouais, le journal. Bah, écoute, le journal, en fait, parce que tu parlais de groupe journal, en fait, le groupe préexistait un peu au journal, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin des années 80, bon, en fait, il y a une convergence de gens qui venaient un petit peu d'horizons un peu semblables, mais de générations différentes, qui se retrouvaient. Alors, un copain notamment qui avait été sur Boulogne, qui était un des animateurs de la revue Le Cri du Boulonnais, et qui faisait partie des cercles Front Libertaire, et d'autres personnes qui venaient de Lille, de Paris et tout ça, se sont retrouvées sur Boulogne. Et on a commencé à mener plusieurs actions à l'époque. Bon, à partir de 88 contre le protocole armée-école. Et puis ça rentrait parce qu'on avait à cet âge-là à peu près l'âge de partir au service militaire. Donc pour certains d'entre nous, ça rentrait dans une lutte un peu plus large contre le militarisme, quoi. Et puis bon, ensuite en 90, il y a eu la poll tax. Alors là, on est allé un peu en Angleterre, on a rencontré des camarades anglais, notamment des gens de l'ACF, l'Anarchist Communist Federation.
Alors la poll tax, j'explique, parce que ça fait partie des grands moments des années 90 pour ceux qui regardaient avec émotion les images de Trafalgar Square. C'est un impôt qui avait été mis en avant par le gouvernement Thatcher et qui se proposait de faire un impôt par tête, hein, c'est ça?
C'est ça,
quels que soient les revenus.
Complètement, c'est ça. Que tu sois ouvrier ou que tu sois un landlord, tu payais pareil, quoi. Donc voilà, enfin bref, c'était. Donc on a fait plusieurs fois le voyage, et un de nos camarades était présent justement à la fameuse journée, là, la bataille de Trafalgar Square. Et c'était voilà, et on a accueilli aussi des gens de l'ACF, et quand ça s'est terminé, qui a été quand même une victoire, hein. C'était un des éléments de la chute de Thatcher,
ouais, aussi, hein,
c'est une veste là-dessus, quoi. On avait décidé de produire une brochure. Donc on a produit une brochure, c'était notre première publication collective, et qui a eu un certain succès, quoi. Enfin, il me semble qu'en France, on était à peu près les seuls à produire un peu de matériel là-dessus. Donc voilà.
Et avec déjà, on va dire, quelques traits qui correspondaient à votre caractère politique, à savoir le caractère de classe, le caractère d'auto-organisation et le caractère populaire et, si possible, spontané et non encadré, entre guillemets.
C'est ça, tout à fait, ouais, parce que bon, on se posait un peu la question, est-ce qu'on prenait contact avec des organisations nationales en France? Bon, on est resté longtemps un petit peu en dehors de tout ça, mais on avait, je pense, quand même relativement une ligne à peu près claire, c'est-à-dire une position de classe, et puis un ancrage dans le milieu populaire de l'histoire de la classe ouvrière, voilà. Donc, et effectivement une autonomie, puisque cette fameuse brochure, comme beaucoup de choses ensuite, on l'a produit par nous-mêmes, quoi, et on s'est débrouillé pour la diffuser, voilà, quoi.
Alors continuons, donc là on arrive donc à des gens qui se rencontrent, qui ont d'expérience politique et une pratique politique commune, et qui donc vont produire du papier, de l'écrit, de la réflexion et de la narration autour de la ville et autour de ce qui se passe autour. Et donc ça débouche en 92 sur la création de La Mouette Enragée, quel programme.
Oui, ça fait en 92, alors ouais, il nous a fallu à peu près 3 ou 4 ans, hein, pour... Mais on s'est posé la question de la nécessité de d'éditer un journal local de contre-information. Enfin, à l'époque, c'est un peu comme ça qu'on l'envisageait. Alors, ça avait rien d'extraordinaire parce qu'à l'époque, il y avait de nombreux, même sur la ville, hein, journaux de contre-information. Et c'était l'époque des fanzines aussi, un petit peu, hein, donc nationalement et tout ça. Et puis, on avait donc parmi nous un camarade qui, lui, avait été très investi dans le
Cri du Boulonnais,
ouais. Dans le Cri du Boulonnais, ouais. Donc, tout ça faisait que, ça fournissait un terreau assez favorable, quoi. Donc, on a sorti le premier journal, et puis, s'est posé la question de la diffusion. Alors, à l'époque, c'était un peu compliqué de faire un peu de vente, même militante, comme ça se faisait dans les années 70, et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on le diffuse en kiosque. On n'avait pas trop chaud, quoi.
D'accord. Alors, Fred, tu voulais rajouter quelque chose? Non?
Non, parce que moi, je suis arrivé... à la mouette qu'en 98, et que pendant ces années-là, j'étais à la CNT à Lille, donc je n'ai vécu que de loin, et le week-end, et encore, je revenais pas forcément pour ça, ces aventures-là.
D'accord. Alors, ce qui est important de dire, c'est quand on parle de... Tu as employé plusieurs fois le mot de contre-information. Aujourd'hui, on a beaucoup de contre-information, en tous les cas de médias alternatifs. Hein, on est beaucoup sollicité. On voit aussi beaucoup de journaux alternatifs. Peut-être que tu pourrais nous dire quelle différence tu fais entre les deux? Entre ce que vous faites et entre les deux, ouais.
Ouais. Fred, tu veux prendre ou non? Bon, écoute, c'était un journal de contre-information parce qu'on lui donnait on mettait l'accent sur la production de contre-information locale, c'est-à-dire que le journal devait nous permettre de s'inscrire localement, tu vois, s'inscrire politiquement dans la ville. Ça devait être un des outils qui permettait de s'ancrer localement sur la ville.
D'ailleurs, pendant des années, il y a toujours eu Bougogne dans le titre, quasiment. À chaque une, il y avait Bougogne.
Oui, voilà. C'est...
Ouais, les dossiers étaient des dossiers de contre-info locales, quoi, essentiellement.
C'est ça, le journal est un outil pour intervenir et relayer ce qui se passe dans la ville, mais aussi défendre une position et un point de vue. Et ce n'est pas une activité auquel vous consacrez tout votre temps, vous n'êtes pas des journalistes alternatifs, vous êtes des militants, des salariés, des travailleurs qui utilisaient ce biais, on va dire... pour avoir un échange avec le milieu, en tous les cas la ville, la société, les gens qui sont en lutte principalement. Alors, soit aussi des choses que vous avez envie de décrire et des thèmes qui vous tiennent à cœur, mais surtout, et le plus possible, relayer les luttes et avoir un outil d'intervention dans les luttes.
Oui, c'est ça. C'est effectivement, comme tu précises bien, on n'est absolument pas des journalistes, on est des militants politiques. Donc... personnellement, je dirais même que plutôt qu'un journal, ce sera un espèce de petit bulletin, quoi. Enfin, tu vois, un bulletin local qui nous permet d'abord de relayer la parole des gens qui sont autour de nous et puis qui ont des conditions, qui vivent dans des conditions justement ou qui sont impliqués dans des luttes et qui nous semble important de relayer tout ça. Donc, c'est essentiellement un relais sur une position qui est une position effectivement de lutte sociale, quoi.
Et puis maintenant, après, vous avez passé au blog, vous avez construit un blog qui a un certain succès, non?
Ouais, alors le blog, écoute, ça, il a, je serais incapable de dire.
Pas dire quel âge il a, mais...
7-8 ans, on va dire, quelque chose comme ça. Après, au niveau de la fréquentation, je sais pas si on peut se fier au calculateur et tout ça. Bon, disons qu'il y a un certain succès, ouais.
Alors maintenant, ouais.
Ouais, maintenant, ouais.
Alors, l'objet du blog, c'était aussi... parce que, on va dire que grosso modo, là tu vois, la mouette a 30 ans et on va sortir le numéro 38, ce qui veut dire qu'on sort un peu plus d'une mouette par an, quoi.
C'est ça.
Donc effectivement, au point de vue de la présence, même si on s'inscrivait dans une quantité de choses, que ce soit dans la rue ou dans les boîtes ou des choses comme ça, du point de vue en termes d'analyse, en termes de positionnement et en termes de diffusion de l'existence de ces luttes ou de prise de parole et de pouvoir donner la parole à des gens, il fallait qu'on ait un autre outil qui puisse le permettre. Et c'est dans cette optique aussi qu'on a créé le blog, quoi, pour être plus réactif et puis pour être plus présent aussi plutôt que par le papier une fois par an, et puis ben dans les mouvements où effectivement on débarquait pas forcément avec un drapeau moitorragé, au mieux on avait un tract. Hein. Voilà. Donc un peu comment ça s'est goupillé.
Ouais. Alors non seulement vous avez cette activité-là, on l'a dit, de relais, je réinsiste là-dessus parce que, je le redis encore, on a beaucoup aujourd'hui, et d'ailleurs parce qu'il y a un déclassement social hein, aussi, hein, de journalistes qui sont justement dans ce truc de médias alternatifs, et il y a une vraie différence entre, on va dire, nous et eux, si je peux dire, c'est que nous, on est notre propre média, c'est-à-dire on n'a pas besoin de médiation, notre boulot c'est d'amplifier les choses, de les relayer, c'est pas de se poser, on va dire, en analyste ou en traducteur de la lutte. Ce qui fait que il est assez rare, à l'Égrégor et d'ailleurs à la Mouette Enragée aussi, qu'on aille interviewer des spécialistes de la lutte, exemple des universitaires ou des intellectuels, même si parfois ils peuvent avoir des choses intéressantes à dire. On va d'abord donner la parole aux gens qui sont en lutte eux-mêmes prioritairement concernés par le problème, quitte à pas être d'accord avec eux et à porter nous notre point de vue, mais en tous les cas, voilà, leur donner la parole. Alors, il y a cette intervention-là, puis il y a aussi une intervention un peu plus théorique qui passe par le biais de brochures, tu l'as dit, voire même d'ouvrages, de bouquins, puisque vous avez commis, vous êtes responsable, vous êtes coupable de plusieurs ouvrages, hein, je crois.
Oui, enfin, c'est relativement modeste. Hein. On a une première fois collaboré avec d'autres personnes lorsqu'on était impliqué sur Calais. On a passé plusieurs années sur Calais au moment de
Sangatte,
voilà, et de notamment la construction du centre de rétention de Coquel.
Donc, et son extension.
Et son extension. Et donc là, on a passé plusieurs années là-bas et à l'issue de ces années-là, et bien avec d'autres personnes qui eux intervenaient sur Lyon, Marseille, Paris et en Allemagne, on a contribué à l'édition d'un livre quoi.
Et donc dans ce bouquin, on a fait un espèce d'état des lieux donc c'était en 2005, c'est ça?
Ouais, 2005.
En 2005, un état des lieux de les 5-6 ans qu'on avait passé sur le terrain à scotiner notamment le mouvement associatif qui faisait, alors crachons pas sur les gens, hein, qui faisait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils sont d'un point de vue de l'urgence, qui en est toujours une aujourd'hui, mais qui ne voulait absolument pas entendre parler de
positionnement
politique par rapport à ça.
Ouais.
Et on a donc fait un chapitre, mais quand même un chapitre d'une trentaine de pages, si je me souviens bien, dans ce bouquin qui s'appelait Politique migratoire,
grande et petite manœuvre.
C'est ça. Qui date certainement de 2005, ouais, c'est ça. Et qui reste un des bouquins les plus intéressants soit sorti sur les questions migratoires sur Calais, donc de Sangatte à Coquel, hein, où justement. Vous, en toute franchise et on va dire avec une certaine honnêteté intellectuelle, vous faites le bilan de votre action sans éluder les impasses et les échecs la lucidité du constat. C'est très intéressant parce que depuis une dizaine d'années, on a tendance à dépolitiser cette question migratoire et on voit que si on la remet pas dans un contexte international, capitalistique, c'est-à-dire de classe et donc politique, eh ben on se fait complètement bananer et on court après le Mickey quoi, sans jamais résoudre véritablement le problème quoi.
Voilà. Tout à fait.
Vous aviez un autre dada, j'allais dire, qui s'appelle Les illusions bleues d'un capitalisme vert, Fortune de mer. Ça c'est un vrai livre, un vrai bouquin.
Ouais. Disons que ça c'est au départ c'est pareil, c'est une compilation de textes qu'on avait établi et rédigé sur plusieurs numéros de la Mouette. Qui tentait d'analyser un petit peu les projets d'aménagement et de transport et de commerce par le transport maritime à Boulogne. Et donc un petit peu des dynamiques qui cherchaient à revitaliser des espaces qui sur l'ensemble du territoire côtier français, des ports de seconde importance, comme Boulogne-sur-Mer par exemple, essayer de trouver une solution au dépérissement du transport, etc., avec des solutions assez étonnantes.
L'économie en général,
l'économie en général, mais assez étonnantes, comme des bateaux à grande vitesse qui devaient acheminer du fret entre l'Espagne et le...
Et Rotterdam.
Et Rotterdam, entre autres, ouais.
Et en fait, ce bouquin parle effectivement de notre... de la situation de Boulogne au regard de ces histoires internationales de transport maritime, mais justement en l'inscrivant dans cette histoire de transport maritime, donc de la marchandise, où on parlait déjà à l'époque, mais maintenant ça y est, c'est fait, avec le réchauffement climatique, de l'attente, j'ai presque envie de dire en tapant du pied, des compagnies de transport que le passage du Nord-Est soit enfin praticable. Et maintenant que la fonte des glaces, ben c'est quasiment dans la poche, et aussi le fait que cette histoire de bateau, 90% des marchandises sont acheminées par la mer, quoi. C'est quand même pas rien, quoi. Et on voit ce qui s'est passé quand Suez a été bouché il y a peu de temps là, et on voit ce qui se passe quand effectivement les bateaux circulent plus, quoi.
En Ukraine par exemple,
on avait eu envie de se pencher là-dessus, et de l'inscription de la politique, alors pas forcément simplement de Boulogne, parce que derrière il y avait quand même le banc et l'arrière-banc de la politique aérienne et du monde économique et patronal local, mais et au-delà d'ailleurs, parce que ça voulait dire qu'il y avait des infrastructures, qu'il y avait bref, il y avait tout un business qui se montait autour de ça, pour finalement se retrouver avec rien et se retrouver avec un terrain qui était mort et qui coûtait de l'argent et un type qui s'était barré avec la caisse, quoi. En gros, c'était à peu près ça. Voilà un peu la situation dans laquelle on était quand on a écrit ce bouquin et qu'on a eu envie de développer un peu, quoi.
Oui, parce que on en a parlé au début, ça nous permettra de faire une résonance, c'est-à-dire que ces ensembles industriels et ces terrains industriels, quand il y a la désindustrialisation, alors s'ils sont pas trop moisis, s'ils sont pas trop pourris, s'ils sont pas trop pollués, ils deviennent des enjeux importants, soit d'un côté pour du tourisme ou du tourisme écolo de la transformation en folklore ou un truc, soit pour tout un tas de gens qui peuvent s'emparer et proposer des projets qui sont souvent grassement subventionnés puisque il faut occuper les gens, il faut maintenir un semblant de politique, on va dire, d'emploi, de salariat, etc., etc.
Alors oui, tu veux qu'on...
Oui.
Bah écoute, oui, alors nous ce dont on s'aperçoit qu'effectivement, bon, d'abord, ça a été un projet qui a servi de pompe à fric à des gens qui ont chopé des subventions et qui
sont
avec, hein, très clairement. Il reste une infrastructure qui a coûté plusieurs millions d'euros qui ne fonctionne pas, hein. Il y a un port à Boulogne-sur-Mer qui est à l'arrêt depuis, d'ailleurs, qui n'a quasiment jamais fonctionné. Les seuls moments où il fonctionne, c'est quand il y a des bateaux de croisière qui, très occasionnellement, viennent débarquer leur population pour aller visiter la vieille ville fortifiée et faire quelques emplettes. Voilà, donc ça me donne un petit peu l'état des lieux. Mais alors par contre, effectivement, je pense qu'ils n'ont pas abandonné leur projet de développement d'une économie touristique. Hein. Ça, c'est vraiment le deuxième axe. Enfin, là, depuis des années, on voit que ça prend une part importante dans les projets politiques locaux.
C'est ça.
D'ailleurs, à ce propos, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait parlant. C'est le fait que à Boulogne, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait les mâles, hein, ces ferries. Il y avait plusieurs compagnies de ferries dans les années, depuis l'après-guerre jusque dans les années 70. Tout ça s'est cassé la gueule. À un moment, il y a eu une tentative avec les aéroglisseurs, dont la piste n'est plus utilisée non plus. Ensuite, il y a eu un désert total de fréquentation par les ferries du port de Boulogne. Après, il y a eu une compagnie qui s'est installée, qui voulait effectivement, et puis ça s'est cassé la gueule aussi, et aujourd'hui, les passerelles sont vides et en train de rouiller, quoi. Donc il n'y a toujours plus de ferries à Boulogne, tout en ayant la volonté de développer quelque chose autour du tourisme, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'on n'en a pas parlé dans notre introduction, parce qu'on était plus sur la durée, mais pour ceux peut-être qui connaissent Nausicaa, c'est à Boulogne, hein, c'est donc c'est le plus grand aquarium européen, je dis pas de bêtises, c'est ça ?
Oui,
c'est ça, et qui vous fait une super publicité, puisque désormais, vous le savez, les villes ne sont plus des endroits où on vit, où on travaille, mais ce sont des marques qu'on doit faire fructifier dans la grande compétition des métropoles et entre elles. Donc, il faut trouver un truc. Vous, ce que vous avez trouvé un truc, c'est les aquariums et les poissons. Donc, il y a des centaines, il y a des dizaines d'histoires ouvrières et d'histoires industrielles à Boulogne-sur-Mer, mais ce qu'on va retenir, ce sont évidemment les aquariums et les poissons. C'est beaucoup plus sympathique.
Pas seulement, hein. Je veux dire qu'on a une quantité de labels à Boulogne, c'est la course aux labels. Hein. On est une ville d'histoire, on est une ville fleurie, on est une ville... Pour l'histoire, le gros truc, c'est Napoléon chez nous.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Napoléonophilie qui s'inscrit avec l'histoire du camp de Boulogne, qui est parti en cacahuète aussi, d'ailleurs, et qui, sur lequel on a aussi à un moment rigolé un peu, parce que...
Fred, tu peux expliquer l'histoire du camp de Boulogne, parce qu'il n'y a pas forcément de connaissances hyper pointues sur Napoléon chez nos auditeurs.
Bon, alors très très vite.
Ouais.
Le camp de Boulogne, c'est là
où fait plaisir.
Napoléon avait parqué la grande armée, toute son armée, dans le but d'envahir l'Angleterre.
Et oui.
Et arrivé là, il n'y a pas pu. Et donc ils sont partis de Boulogne à marche forcée pour aller se foutre sur la gueule à Austerlitz. Et là, voilà un peu l'histoire du camp de Boulogne. Donc il reste quelques machins. Mon Napoléon, chaque fois qu'il allait quelque part, il laissait un chapeau, donc on a un chapeau. Et puis il y a une maison en vieille ville qu'il a fait construire pour, je crois que c'était pour Marie-Louise.
C'est ça.
Et puis il y a une quantité, mais ça les gens ne le savent pas, mais ils y vont pas, une quantité de registres sur lesquels on voit l'histoire un peu des soldats ici. Quoi. Mais voilà, en gros, il n'y a plus rien, mais le nom reste... Et ça reste...
Il y a une statue, effectivement.
Oui, alors la statue, c'est Napoléon III qui l'a fait faire. C'est une statue de Napoléon ou d'une colonne. Et bon, voilà, quoi. Mais c'est tout, quoi. Mais c'est surtout attaché à l'histoire de la Grande Armée. On est plus dans la fantasmagorie et puis dans la... Comment je dirais ça? Dans le... On fait du délire avec un événement et c'est tout, quoi.
C'est ça.
Je veux dire, voilà.
Alors, le dernier mouvement aussi dans lequel vous avez pu intervenir et utiliser votre outil journal, c'est celui des Gilets jaunes, avec en plus une ambition très intéressante qui était celle de regarder de nouveau, d'essayer de comprendre et d'analyser ce qui se passait dans la classe ouvrière, dans la classe laborieuse, puisque ce mouvement des Gilets jaunes, il a été assez important chez vous et il a permis, on l'a dit à nombreuses ici reprises, de nouveau le surgissement de cette classe laborieuse sur la scène politique et sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce qui s'est passé chez vous, s'il y a des caractéristiques, et puis votre envie, votre ambition, votre projet d'enquête ouvrière à l'aide du journal et quels outils vous voudriez utiliser pour ça?
Ouais, bah disons que ça se recoupe. Le mouvement des Gilets jaunes, on s'y est rapidement inscrit sans être nous-mêmes Gilets jaunes, on va dire. Hein, il faut être très 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 clair là-dessus. Mais dès la première manifestation, on y a participé, on était présents. Et on a suivi tout le mouvement jusqu'à son extinction naturelle localement, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça confirmait un petit peu ce qui nous a mis la puce à l'oreille, la raison pour laquelle on a lancé ce projet très modeste d'enquête ouvrière, c'est que durant tous les mouvements auxquels on a participé ces dernières années, 2003, 2006, 2010, 2016, tout ce que tu veux, la loi travail et tout ça, c'est que toute une fraction du prolétariat était absente, tu vois. Donc, ça faisait des années qu'on était dans des mouvements sociaux et toute une fraction du prolétariat n'était pas là. Donc, et notamment du privé. Et ce qu'a souligné et puis révélé cette histoire de Gilets jaunes, c'est que, ils étaient là, mais ils ont eu leur mouvement, quoi. Et ce mouvement a été justement le mouvement porté par ces catégories-là de travailleurs précaires, de travailleurs intérimaires, de chômeurs, de personnes handicapées, de retraités, voilà, toutes les personnes qu'on ne croisait pas dans des mouvements qui étaient portés par les syndicats et très structurés syndicalement.
Oui, on l'a dit ici. Bon, alors évidemment, au cours de ces 20 dernières années, les gens qui ont défendu quelque chose, puisqu'on a été sur des mouvements qui ont été essentiellement défensifs, ce sont évidemment des professions à statut, donc des gens qui avaient quelque chose à défendre et qui avaient également une culture syndicale qui permettait de sortir, j'allais dire, quand le syndicalisme faisait appel à ses forces, en tous les cas aux signaux habituels des mouvements sociaux français. Et puis peut-être, tu l'as dit, quelque chose qu'on n'a pas vu, auquel on est devenu de nombreuses reprises ici, c'est cette notamment dans la logistique et dans le service, une transformation du prolétariat, enfin qui existait toujours, mais une invisibilisation qui a vraiment explosé au niveau du gilet jaune et qui, somme toute, a pu à la fois montrer sa force par son absence d'encadrement et sa capacité de création et d'auto-organisation, mais aussi quelque part sa faiblesse parce que il manquait aussi peut-être quelque chose, quoi.
Oui.
Et ce qu'on avait l'impression, c'était qu'il y avait vraiment deux mondes qui avaient du mal à communiquer, à se parler. D'ailleurs, dans les échanges qu'on avait lors de ce mouvement des Gilets jaunes, vous avez été parmi les premiers à souligner que non, le mouvement, il avait une composition de classe très, 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 très forte. Comment vous avez pu le repérer, ça ?
En se rendant sur place.
C'est
ça. Oui, moi, il y avait une chose qui était amusante, c'est que le premier samedi, je ne sais plus, du mois de novembre,
c'est novembre, ouais.
Voilà, moi j'avais des collègues qui travaillaient, enfin qui sont dames de service, nettoyage, quoi, et qui ont du mal à faire grève, hein, qu'on voit très, très rarement justement dans les défilés syndicaux, et qui, ce samedi-là, était sur l'un des gros ronds-points, quoi. Okay. Et c'est la première fois que je l'ai croisé dans une initiative comme ça, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose de... Et il y avait aussi des syndicalistes qui étaient là et qui n'intervenaient pas en tant que tels. Il y avait, mais comme tu l'as dit, hein, moi je pense qu'il y avait deux mondes qui étaient celui effectivement qui est porteur d'une histoire d'un mouvement ouvrier qui est aujourd'hui un peu défait et en très mauvaise posture, quoi, et qui regroupe effectivement majoritairement des gens à statut ou du service public et tout ça, et puis tout un prolétariat qui sur lesquels on a beaucoup de difficultés avec lequel on a beaucoup de difficultés même à organiser des choses ou à entrer en communication hormis très ponctuellement et voilà quoi. Donc il y a eu ces deux mondes et effectivement et ce mouvement des Gilets jaunes avait beaucoup de spontanéité, beaucoup d'autonomie, etc. Mais il lui manquait effectivement. Bah, il n'était pas porteur d'une histoire un peu. Ça a peut-être été la limite, forcément. Enfin,
il y avait presque une lutte de classe chimique pan pure, mais qui, en fait, se limitait à une expression de révolte et ne pouvait pas ou n'envisageait pas... Alors après, évidemment, après les gens se sont fait péter la gueule, faut quand même être clair, hein, aussi.
Oui.
voilà, et donc forcément, ça calme un peu aussi, se butait contre le mur ou la marche suivante, en fait. Hein. Mais là-dessus, la répression est a joué, évidemment, un rôle fondamental, mais... Est-ce que chez vous, par exemple, il y a encore quelques braises qui couvent sous la cendre, à votre avis ou...
Il n'y a pas de braises qui couvent sous la cendre.
Il faut souffler, hein, Fred.
Excuse-moi. Il y a en revanche quelques, j'ai envie de dire, des irréductibles, mais enfin, je ne sais même pas comment présenter les choses. Par exemple, il y a des gens, notamment un gars, qui s'est fait arrêter, démonter, démolir, etc. X fois, et qui en ce moment est à côté des diffeurs pour les élections, avec des photos de gilets jaunes, avec un homme sandwich, avec des photos de gilets jaunes qui se sont pris des bastos dans les yeux, des choses comme ça, et où il fait sa pub sur son coup de gueule encore et toujours, mais le souci que ça, c'est que c'est un peu sur le mode tous pourris quoi.
Ouais.
Ça va pas beaucoup plus loin, mais que bon voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui reste, puisqu'il y a eu effectivement parmi ceux qui se sont fait démantibuler, bon ça en a refroidi plus d'un. Moi je me souviens que ça nous est arrivé d'aller par exemple participer à des marches de nuit où on nous disait bon ça se passe sur le trottoir, les gens restent sur le trottoir. Ou alors avoir des gens où on disait bon c'est une manif qui n'est pas autorisée, et où des gilets jaunes qui s'étaient fait arrêter disaient bon ben moi dans ce cas-là, si c'est pas autorisé, j'y vais pas.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, du point de vue de l'intimidation, une certaine réussite du point de vue de l'État, quoi, et de ses relais préfectoraux, y compris chez nous.
Bien sûr, il faut rappeler symboliquement et visuellement pour ceux qu'on peut qui se rappellent pas ou qu'on peut y participer. Donc le 8 décembre à Paris, on a des blindés dans la rue avec des chevaux qui patrouillent et qui chargent pour éviter de reconduire l'affront qu'il y a eu sur la journée du 1er décembre où qui avait été la grosse émeute spontanée de la ville de Paris. Il nous reste quelques minutes.
On pourrait peut-être parler de l'avenir.
Oui, c'est ça. Alors allons-y, vous avez 3 minutes pour nous faire un bilan de 30 ans d'intervention et vous parler d'avenir et par exemple nous présenter le prochain numéro de La Mouette Enragée.
Bah écoute, oui, alors l'avenir, nous le bilan qu'on tire de 30 ans, c'est que effectivement on n'a pas une influence déterminante localement, mais comme on dit toujours, si on n'était pas là, ça se passerait pas forcément de la même façon. Donc malgré tout quand même.
Et on est connu et attendu, y compris en mairie. Hein.
Donc bon voilà.
Oui oui.
Et puis après, notre très modeste enquête ouvrière, comme je dis, qui poursuit. Laborieusement, mais enfin bon, voilà, on s'y tient, quoi, et on sortira sans doute, sortira forcément quelque chose de tout ça, quoi. Là, il y a un numéro qui est en train de se boucler, qui est un peu le quatrième sur cette histoire d'enquête ouvrière. Et puis, bah, écoute, l'avenir, on verra bien, hein, ça.
Sachant qu'au stade où on en est, au point de vue des retours, bon, on a eu des difficultés techniques, mais on a aussi assez peu de. Faut être honnête, hein, quand on. Au prorata de ce qu'on dit, on a très peu de retours. Ensuite, bon, il y a aussi des réflexes de la part des gens, ce qui fait que quand on dit, on est obligé de dire on n'est pas un parti, on n'est pas un syndicat et des choses comme ça.
Oui.
Et à contrario, ça nous est arrivé en manif de Diffé, et où les gars qui ont donné, ils disaient, bah tiens, t'as qu'à t'adresser au chef du syndicat, là, c'est le grand là, et c'était lui qui était censé se charger de répondre au questionnaire en lieu et place de tout le monde, quoi. Donc il y a encore toute une culture, effectivement, qui est celle justement qu'on voudrait voir réémerger, à savoir des gens qui sont ensemble pour faire quelque chose, et qui n'est pas encore en train de se reconstruire, quoi. Moi, je crois que c'est un peu là-dessus qu'on va exprimer les choses dans le prochain numéro, en disant, bon, on fait pas de compte-rendu sur enquête ouvrière, parce qu'on n'a pas le biscuit pour le faire. En revanche, on peut faire un survol rapide, mais à peu près conscient, de ce que les gens nous ont dit au travers de ce qui a été répondu, quoi.
Mais on aura l'occasion de revenir peut-être ensemble sur cette question de l'enquête ouvrière, puisque c'est une méthode et c'est un thème qui traverse l'histoire du mouvement ouvrier et qui nécessite de longs développements pour expliquer ce qu'on veut faire, en quoi c'est pas de la sociologie, en quoi c'est pas quelque chose ce qui est différent et qui est aussi un outil politique. Pour ceux qui voudraient tout de suite s'y intéresser, on peut évidemment que conseiller d'aller lire l'ouvrage de Friedrich Engels sur les ouvriers anglais, qui constitue un modèle du genre de éventuellement ce qu'on pourrait espérer nous en tous les cas approcher ou reproduire, enfin source inspirante, quoi. Voilà. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
J'espère que
on se reverra
pour les 30 prochaines années. Et puis on rappelle qu'on peut vous lire soit sur papier dans toutes les bonnes crèmeries du Nord.
Voilà.
S'il n'y a pas, il ne faut pas y aller. Et puis sinon sur le blog lamouetteenragenoblog.org. Et puis évidemment, on a souvent l'occasion aussi de vous lire dans Courant Alternatif, la petite publication qu'on fait des fois ensemble. Voilà. Encore merci. Une très très bonne soirée. Et puis à très très bientôt alors. Salut.
Merci. Merci.
Salut.
Salut. Salut Denis.
Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin? Quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital.